Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel ou à nous écouter en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Il fait noir dehors, on est passé à l'heure d'hiver et comme tous les lundis, littérature. Et aujourd'hui, je reçois Léonora Miano pour Rouge Impératrice. C'est édité chez Grasset. Cette émission est préparée avec Corinne Amar, réalisée par Christine Robert avec, à la prise de son ce matin, Alain Joubert.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
C'est une histoire d'amour et une fable politique. Votre dernier roman, Léonora Miano, a pour titre « Rouge impératrice ». Et ce « Rouge impératrice », déjà le titre est assez intriguant, mais alors, dès qu'on l'ouvre, dès qu'on est transporté au 22e siècle, du coup.
Exact.
Bah voilà, nous sommes en 2124, dans une Afrique unifiée, ou presque, appelée Catiopa, un continent qui règne sur le monde. Une puissance... Enfin, quand je dis qu'il règne...
tout de suite. Non, mais attends. Il essaye déjà de régner sur lui-même.
Oui, sur lui-même, mais c'est-à-dire c'est enfin une puissance, c'est enfin les États fédérés
enfin,
d'Afrique.
Comme vous dites.
C'est un rêve que vous avez depuis quelque temps.
Et qui... Ah, moi je l'ai depuis toujours.
Et de livre en livre, ce rêve des États fédérés d'Afrique.
Exact. Facile à réaliser, mais on peut déjà commencer par la fiction.
Voilà, donc où tout est prospère, une Afrique qui ne dépend plus que d'elle-même, respectueuse de la diversité culturelle des Africains, et donc des cultures africaines, et qui peut allier technologie et écologie. Et cependant, il y a un problème, et ce problème vient d'une minorité, ces descendants de migrants français qui continuent à vivre comme jadis dans leur bled de la vieille Europe, ces fulassés qui ne veulent pas s'intégrer, oublier leur folklore désuet. Ah voilà, on les nomme d'ailleurs les sinistrés.
On les nomme les sinistrés parce qu'ils ont quitté leur pays à l'occasion de ce qui était pour eux un sinistre. Ils ont quitté leur pays à notre époque alors qu'ils se sentaient envahis par les Noirs et les Arabes. Mmh. Je ne surprends personne. Et une petite minorité d'entre eux a donc décidé, puisqu'elle ne voulait pas apprendre les langues étrangères comme ceux qui émigrent vers la Hongrie et la Bulgarie, a décidé d'être pragmatique et d'aller en Afrique subsaharienne francophone.
Où ils sont respectés, où ils étaient respectés.
Voilà,
à
là où elle pourrait faire ce qu'elle voulait, sauf que dans 100 ans, sa descendance n'a plus du tout la même. Elle ne vit plus du tout dans les mêmes conditions.
Bon, voilà. Alors, on a compris le principe. Hein. c'est décaler le regard pour mieux voir le présent, inverser les situations. C'est comme, d'ailleurs, quand on change le sens d'une carte géographique, quand on met l'Afrique en haut, l'Europe en bas, on se dit oui, on pourrait voir les choses de cette manière.
Et on devrait pouvoir.
Ouais, c'est une manière pour vous, Léonora Miano, de parler de la situation du monde aujourd'hui et des relations complexes entre l'Europe et ses anciennes colonies.
Oui, bien sûr, et en particulier la France et ses anciennes colonies, puisque c'est en Europe, à ce pays-ci, que je suis particulièrement attachée, et donc ce qui s'y passe me préoccupe. Moi, j'ai un enfant, une fille qui est française, et voilà, et qui appartient donc à ces minorités qu'on dit aujourd'hui un petit peu dérangeantes, non assimilées, tout ça, tout ça. Et donc, oui, le sort de ce pays me concerne et ça me touche, ça me préoccupe de voir voilà toutes ces crispations identitaires, problèmes de rejet de l'autre qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'on ne semble pas arriver à résoudre, alors pour plein de raisons, mais moi je suis arrivée en 1991 dans une France qui était très différente.
Du Cameroun.
Voilà, du Cameroun, et il semblait quand même que nous nous acheminions vers un autre futur. Moi je suis arrivée dans la France de FFF, Marco Prince, la France de NTM, la France de Alliance Ethnique, Dis Bonjour à la Dame, je pense qu'on a même oublié un peu tous ces groupes, mais... pour moi, qui suis féru de musique, ces groupes dessinaient un futur très mélangé. Et donc voilà, il s'est passé quelques événements, bien sûr, quelques événements se sont produits dans le pays. Mais aujourd'hui, il nous semble qu'on va avoir du mal à se rejoindre et que la France va devenir un peu comme aux États-Unis ou en Angleterre, des petites communautés... imperméables les unes aux autres, ne se rencontrant que dans l'espace professionnel peut-être, mais ne partageant plus leurs intimités comme ce fut le cas autrefois. Je regretterais qu'il en soit
comme
ainsi.
Comme ce fut le cas autrefois ou comme on a l'impression que ce fut le cas autrefois?
Je pense qu'il y a des générations qui l'ont quand même vécu. Mmh. Même si ça n'a pas été, et je crois là jamais pour le coup, évidemment, un phénomène majoritaire, ça semblait tout de même, les choses semblaient possibles et plus fluides. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et surtout demain, si nous n'y prenons garde, ça risque d'être très compliqué.
Alors ça, c'est au centre de votre réflexion, de cette fable politique. Vous avez l'intelligence, Léonora Miano, effectivement, de tirer cette fable politique plutôt vers une histoire d'ordre philosophique. Je m'explique, parce que le fait d'inverser les rôles entre les dominants et les dominés d'aujourd'hui dans un récit d'anticipation ne vous empêche surtout pas de vous poser la question « Et si nous, les dominés, nous étions à la place des dominants, est-ce qu'on aurait fait mieux ?» Et c'est là où ça devient passionnant.
C'est une vraie question et je ne suis pas toujours sûre de ça. Parce que les crispations identitaires dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas l'apanage de l'Europe. Si on regarde un peu la planète entière, on s'aperçoit que les mêmes phénomènes sont à l'œuvre partout, que toutes les sociétés sont travaillées par ça. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir... Comment nommer ça, une espèce de fascisme bouddhiste avant de tomber sur ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas et comment est-ce que là aussi la religion peut être instrumentalisée pour discriminer des gens. Je pensais pas que le bouddhisme puisse faire ça, mais ce sont les mêmes êtres humains que les autres au fond. Et donc ils sont travaillés par les mêmes peurs et ce sont toujours les mêmes motifs qu'on donne et en réalité les mêmes motivation derrière les actes. Donc c'est pas du tout des questions spécifiques à l'Europe. Nous en parlons beaucoup ici parce que nous y sommes, mais c'est finalement un peu partout pareil. Et les Africains subsahariens aussi ont leur sein des groupes qui sont mus par ces tentations de pureté identitaire, de refus du mélange. Oui, ça existe aussi et il n'est pas dit du tout que si de telles personnes avaient le pouvoir demain, il n'est pas dit du tout qu'elles soient accueillantes et généreuses.
L'idée, c'est quand même de dire que les opprimés d'aujourd'hui peuvent devenir les oppresseurs de demain.
Mais il y en a des exemples nombreux dans l'histoire, malheureusement. C'est que souvent, on veut évidemment se garder de revivre un choc auquel on a été confronté, une blessure qui nous a été infligée. Mais se gardant de revivre cela, souvent on l'inflige à d'autres parce que il y a en nous une nuit qui fait que l'humain veut se venger du mal qu'il a subi.
C'est une fable politique, Rouge Impératrice, mais pas seulement, c'est aussi un récit d'anticipation, on l'a dit, une saga féministe, parce que vous donnez aux fables les meilleurs rôles.
Je suis une fille. Hein.
600 pages, tout à la gloire des femmes qui font et défendent tout.
On peut pas dire ça.
Mais c'est d'abord un roman d'amour, et alors vous le faites dans le genre populaire, c'est-à-dire
totalement.
C'est assumé, magnifié, amour, totalement. Passion, suspense, comme dans un soap.
Oui, mais... je voulais m'écrire un soap. En fait, au départ, où j'ai Impératrice, ça devait être un feel-good novel pour les pré-quinquas comme moi, que l'amour n'a pas encore trouvé.
Mais quand vous écrivez bien, eh ben, tant pis, c'est devenu de la littérature.
Mais j'assume complètement d'avoir créé des personnages un peu idéaux. On n'a pas l'habitude de voir ça. Déjà que l'Afrique incarne la puissance, mais encore moins l'amour, et encore moins ce grand amour presque parfait. Dans les contes de fées, eh ben, les personnages n'ont jamais nos traits. Il serait temps. Mais il serait temps aussi qu'ils ne soient plus des adolescents et qu'ils puissent avoir presque 50 ans et qu'ils s'éclatent un peu. Voilà.
Mais alors justement, pour avoir une idée de comment vous magnifiez ce genre roman d'amour populaire, tout en le mélangeant à la fable politique, Léonora Miano, pour avoir votre souffle, pour entendre votre style, je vais vous demander de lire deux petits extraits de votre dernier roman, Rouge Impératrice.
Alors que le Catiopa unifié remettait de l'ordre dans la psyché criblée d'horreur des habitants de cette partie du monde, alors que l'on s'attelait à guérir leur âme blessée, les sinistrés ne pouvaient être tolérés. il était indispensable que la rénovation se déroule en famille. Ce qu'il avait entendu confortait sa méfiance. Catiopa ne pouvait se permettre de tendre l'autre joue, d'accueillir, d'absorber, de se laisser une fois de plus détourner de sa voix véritable. De plus, Igazi, qui ne vivait que pour cette défense militaire ayant autrefois fait défaut au continent, avait à l'esprit une donnée majeure. Depuis quelques années, Pongo vivait sur ses réserves de ressources minières. Elles n'étaient pas éternelles, et certaines se trouvaient uniquement sur le continent. Ériger cette nouvelle demeure, c'était donc aussi préparer la guerre, car l'ennemi aurait bientôt besoin de se ravitailler en matériaux vitaux. On refuserait de les lui vendre. Alors, il attaquerait, mû par la nécessité toute naturelle de se maintenir en vie. La nuit offrait encore quiétude et discrétion. La femme devait néanmoins se hâter, regagner ses quartiers avant l'aurore. Sans rien laisser paraître de son inquiétude, elle souhaitait que cette réunion prenne fin. Mais l'heure était grave, et le sujet débattu ne pouvait être survolé. Une inconnue était entrée dans la vie du Mokonzi, dont la raison, peu à peu, s'était mise à vaciller. Le nom de cette créature n'était jamais prononcé au sein du cercle. On ne l'appelait que la Rouge ou l'Impératrice. L'ironie, cependant, n'émoussait pas les préoccupations. Qui dominait l'âme du Mokonzi commanderait un jour à l'État. Non seulement avait-elle ravi le cœur et la tête de l'un des plus implacables combattants qu'il se soit illustré sur le continent depuis des temps immémoriaux, mais elle l'incitait par-dessus le marché à une imprudente mansuétude à l'égard des exilés du pays Foulassi.
Je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, je n'ai pas le rythme de la peau. Et je suis africain, un albinos afro.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Léonora Miano, qui pose d'ailleurs en filigrane la question, c'est quoi être africain dans Rouge Impératrice?
Ah, vaste question, ouais. En général, on n'aime pas ma réponse à cette question.
Alors, eh ben, tant pis, on va déranger les bancs de conscience.
Être africain, et je voudrais surtout le dire... au fana de pureté identitaire qu'on a parfois sur le continent et même dans la diaspora, ben, être africain, c'est venir de ce continent et se reconnaître une filiation avec l'Europe, puisque nous avons la particularité d'avoir des ancêtres qui ne se disaient pas africains. Donc tu te dis africain à partir du moment où tu as été nommé comme ça, et par qui ? Et par qui as-tu été nommé?
Eh oui,
c'est ça. Et à quelqu'un qui a donné ce nom à ton continent, et c'était pas toi, et c'était pas tes ancêtres. Même après la colonisation, dans les villages, dans les régions rurales d'Afrique subsaharienne, et même peut-être du Nord, il y a des gens qui sont morts sans savoir qu'ils avaient été affublés de cette nouvelle identité, sans savoir qu'on disait d'eux qu'ils étaient des Noirs, parce que ces définitions-là ne participaient pas du tout de leur vision du monde. Donc, Afrique et Africain, et même Noir, c'est des mots qui disent que d'autres, on a rencontré d'autres personnes et que notre univers de référence en a été transformé et que nos identités ont muté. Donc quand tu te dis africain, tu reconnais que t'as un papa qui est aussi Europe. Voilà.
On sait pas qui est son papa vraiment, votre héroïne, Boya.
Non, on sait pas bien. Mais peut-être qu'on va savoir un jour.
Ah, donc Rouge Impératrice n'est que le début d'une véritable saga, du coup.
Ah, mais moi, je voulais m'écrire la série que j'en ai marre de pas voir à la télé. Donc, ouais, il y aura une suite. Maintenant, je peux le dire.
Mais c'est une femme exceptionnelle. Elle est vraiment romanesque parce qu'elle est différente. Parce que, d'ailleurs, vous dites que c'est une femme flamme à un certain moment.
Oui, c'est une femme flamme.
Bah oui, bah c'est bien résumé. Parce que c'est une intellectuelle qui n'a pas renoncé à la spiritualité aussi.
Non, qui n'a pas renoncé à la spiritualité, mais qui n'a pas renoncé non plus à la dimension charnelle de sa vie. Donc c'est un être total.
Mais surtout, cette universitaire militante est favorable à l'assimilation de ces bandes de sauvageons, comme on peut les appeler.
Eh oui, il faut quand même faire quelque chose pour eux aussi.
Elle n'est pas du genre à dire comme les autres, Catiopa, tu l'aimes ou tu la quittes.
Non, elle suggère ça, mais avec plus d'intelligence que quand on nous l'a dit ici.
Voilà.
Où c'est pas un pays où on peut le dire. Mais effectivement, elle est favorable à se contenter de la main. Pour diverses raisons. La première qu'elle met en avant, c'est que voilà, il y a des gens qui sont nés là. D'ailleurs, tous même sont nés là. Tous ceux qui se revendiquent d'ailleurs de ce pays foulassi que leurs ancêtres ont quitté, même la plus âgée, Charlotte du Pluvinage, elle est arrivée dans le ventre de sa maman. Donc en fait, ces gens sont nés sur ce sol. Simplement, de leurs parents, ils ont hérité uniquement cette... identité malheureuse, pour paraphraser quelqu'un qu'on connaît sur cette chaîne. Voilà, c'est leur unique patrimoine, c'est leur manière de vivre et de regarder le monde. Et pourtant, en réalité, ils ne connaissent pas d'autre sol que ce sol africain, qu'éthiopien. Mais ils ont la tête ailleurs. Ils ont l'esprit dans une espèce de mythologie qui n'est pas la réalité. Ils rêvent à un âge d'or qu'ils ne vivront pas. Et ils ne font rien, d'ailleurs, pour connaître véritablement le pays perdu. Ce qu'ils veulent, c'est le réinventer là où ils sont. Et donc, on les pousse un peu, on va peut-être les pousser dans leur dernier retranchement, en leur demandant, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Est-ce que vous voulez faire partie de nous, quoi? Appartenir à notre présent et à nos lendemains? Mais Boya, voilà, cette Rouge Impératrice, elle pense beaucoup aux enfants, en fait, qui n'ont pas le choix et qui sont simplement embarqués comme ça dans les lubies de leurs aînés et qui, peut-être, si on leur offrait la possibilité, voudraient tout à fait autre chose, voudraient se mêler aux autres enfants, voudraient aller à l'école parce que là, du coup, ils n'y vont pas. Voilà, ce...
Bah, elle est progressiste, on peut le dire, elle est humaniste.
Bah, c'est quelqu'un de normal, quoi.
Et elle est amoureuse d'un homme politique qui a du pouvoir, mais qui, lui, est obligé de rendre des comptes.
Qui est obligé de rendre des comptes, mais qui a quand même aussi choisi, parce que c'est un homme exceptionnel, merveilleux, qui a choisi d'écouter la femme.
Oui, c'est l'amour. C'est l'amour.
Oui, c'est un homme, c'est le prince charmant un peu classique. Il a tous les attributs de la masculinité presque conventionnelle, mais il a décidé. Voilà, il a du respect pour elle et sa parole lui importe, donc il l'écoute. Et ça, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il écoute la femme.
Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné dans Rouge Impératrice, c'est que Boya, c'est que les femmes se retrouvent entre elles pour une initiation à la vie. Comme si il fallait préserver encore des endroits où les femmes se retrouveraient seules. Est-ce que c'est important pour vous, Léonora Biano?
Ça, c'est un truc à avoir beaucoup avec l'auteur, c'est que ces endroits-là m'ont manqué. Voilà, j'aurais aimé connaître ces initiations ancestrales que je fais perdurer jusqu'au 22e siècle.
Ouais.
Ouais, j'aurais beaucoup aimé faire ça, que des aînés s'emparent de mon hymen. avant que ce soit un garçon.
Voilà. Alors ça vient de votre imaginaire ou c'est une légende africaine?
Non, je ne me serais pas permis. C'est pas une légende, c'était une pratique.
Une pratique
de la côte du Cameroun où effectivement c'était les aînés qui défloraient la jeune fille, les aînés femmes, pour qu'elles se souviennent que le corps des femmes appartient d'abord aux femmes. Voilà. Et ce rite était pratiqué pour les filles en même temps que au même âge que la circoncision pour les garçons.
Et d'ailleurs, dans Rouge Impératrice, il n'est pas seulement nourri de quelques légendes africaines, mais il y a aussi des mots africains.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je remercie les Français qui se sont jetés sur ce livre, parce que je pensais qu'il ne serait pas lu justement à cause de ça. Je me suis fait tellement plaisir, mais il m'avait semblé que, voilà, si j'écrivais ce roman de... l'Afrique souveraine sur tous les plans et aussi sur le plan épistémologique, cette Afrique en train de s'inventer, parce que c'est vraiment le défi qui est devant nous, c'est pas d'aller chercher dans le passé, mais c'est de nous inventer, il fallait que ça se voie dans l'esthétique du livre, et comment faire, sinon en distillant un petit peu un lexique subsaharien. Donc j'assume ça complètement, en sachant que pour certains lecteurs, c'est un peu difficile.
Tous ces mots qui vous ont manqué aussi, Léonora Miano, parce que vous avez eu une éducation française, même en Afrique.
Oui, moi, mes parents et même mes grands-parents ne m'ont parlé que le français. Et si je parle le douala, c'est parce que j'étais une vilaine fille qui écoutait aux portes et qui fréquentait pas les bonnes personnes.
Vous leur reprochez de vous avoir inculqué, sans doute pour votre bien, je suppose, qu'une culture française...
Non, je crois qu'ils n'y ont même pas réfléchi, puisque mes parents, lorsqu'ils ne voulaient pas que nous comprenions les conversations, mes sœurs et moi, se parlaient entre eux le douala, que ma mère le parlait à ses sœurs, et... je ne leur en veux pas, parce que c'était quelque chose de
mais
très...
Mais quelle signification ils mettaient dans cette non... comment on appelle ça
Non-transmission.
Dans cette non-transmission.
Mais vraiment, je crois que cette petite bourgeoisie... douala et même camerounaise de l'époque n'a pas réfléchi à ça, parce qu'ils ont tous été élevés dans leur langue, voilà, dans les langues locales, les langues ancestrales, et ça les a pas empêchés de faire des études brillantes en français, en anglais, de maîtriser plusieurs langues étrangères. Donc ils ne pouvaient pas nous dire à nous, on te parle le français pour que tu maîtrises pour que tu le maîtrises aisément. Non, ça... Donc, je pense que vraiment, ils n'y ont pas réfléchi et que ça leur est venu sur le tard. Moi, c'est en vieillissant que mon père a commencé de temps en temps à spontanément me parler une langue qu'il ne m'avait pas transmise. Et donc, il y a là une absurdité qui parle de l'aliénation aussi de cette génération-là finalement colonisée. Ce sont des colonisés qui ont été, voilà, embarqués dans les mutations de l'histoire sans trop les interroger, en tout cas sans les interroger toutes. Donc à la maison, chez nous, nous parlions le français, nous avions une bibliothèque qui ne comprenait aucun auteur africain, ni antillais, ni afro-américain, et c'est seulement en me l'entendant dire que mes parents s'en sont aperçus. C'est seulement en m'entendant dire que ça m'avait manqué et que j'ai eu la chance d'aller à l'école au Cameroun où on suivait un programme scolaire camerounais qui m'a mise en contact avec ces autres littératures. Autrement, j'en aurais été privée. Heureusement qu'à l'école, nous lisions les auteurs africains, antillais et même afro-américains.
Et de ce manque est née votre vocation, Léonora Miano. Vous écrivez pour rappeler tout ça. J'ai l'impression...
Ah non, mais je dirais pas ça.
Oui.
J'ai écrit au tout début parce que je voulais exprimer quelque chose qui n'était pas dissible en famille et que j'avais vraiment besoin de dire... j'ai été une petite fille sexuellement agressée très tôt et je ne savais pas comment le dire. Je voulais dire ça. Et écrire m'a, aidé à chercher une voie pour... Alors ça n'a pas marché du tout, j'ai fait chou blanc. Seulement en essayant ça, j'ai éprouvé un sentiment de sécurité, de liberté et de puissance que j'ai toujours voulu retrouver. Donc ma première motivation pour écrire, c'est celle-là. «
Rouge Impératrice est votre 16e livre, Léonora Miano. Et ce matin, vous étiez très à l'aise pour nous parler de ce livre, de votre univers. Le fait de ne plus être en lice pour le Goncourt qui sera remis aujourd'hui, ça vous rend plutôt souriante, détendue?
Bah, écoutez, moi, quand j'ai proposé ce texte déjà à Olivier Nora, qui est mon merveilleux éditeur, et qu'on en a parlé, je n'imaginais pas du tout pour ce roman l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Léonora Miano d'être passée ce matin.
Merci Tufik Hakem de cette invitation.
Rouge Impératrice, le livre que je vous conseille, c'est édité chez Grasset. Et même si ça fait 600 pages, ça se lit très très facilement. Merci Léonora, à bientôt.